France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Aimé Césaire et le Parti communiste, un divorce dans le fracas des mots. On l'oublie parfois, mais Aimé Césaire n'était pas qu'un poète. Auteur de deux œuvres considérées comme cultes aujourd'hui, Cahier d'un retour au pays natal et Discours sur le colonialisme, il fut aussi un homme politique de premier plan. Il était maire de Fort-de-France pendant 56 ans et député pendant 47 ans. Un temps seulement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il est une figure emblématique du Parti communiste français. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Jaloux de sa liberté, celui qu'on surnomme le poète en colère finit par quitter le parti en octobre 56. Fidèle à lui-même, il écrit à Maurice Thorez une lettre incendiaire. Un texte pour l'histoire dans lequel il déplore le silence du parti sur les crimes de Staline, son incapacité à accompagner le combat anticolonialiste, mais aussi le racisme, ou ce qu'il nomme le fraternalisme de ses militants. Notre invité aujourd'hui, l'historien David Zaliot, spécialiste d'Aimé Césaire, il lui a consacré une biographie, mais aussi un essai sur son engagement au sein du Parti communiste. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Mathieu Frette et David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le jeudi dans les kiosques, c'est le jour de sortie de l'hebdomadaire France Observateur. L'ancêtre du Nouvel Obs existe depuis 6 ans, ce 25 octobre 1956, quand il sort une petite bombe à l'échelle de la politique française, et même au-delà. Ce n'est pas une enquête, ni même un édito ou une interview, c'est une lettre. Elle est adressée à Maurice Thorez. Thorez est le leader incontesté du Parti communiste français depuis 25 ans. Difficilement contestable d'ailleurs, au vu de sa mainmise très stalinienne sur le parti. Cette lettre, qui était très opportunément transmise à France Observateur, journal en pointe sur le thème de l'anticolonialisme, Thorez la reçoit la veille, précisément le mercredi 24 octobre. Elle est signée Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, l'un des chantres de la négritude avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais et Léon Gontran Damas. Mais Césaire n'est pas que cela. C'est aussi un homme politique de premier plan, une figure du Parti communiste. Il en est même un élu emblématique. Député-maire de Fort-de-France, en Martinique, ce n'est donc pas n'importe qui, dans cette France d'après-guerre qui se remet à peine de la perte de l'Indochine et qui s'engage dans une nouvelle guerre en Algérie. Or, Césaire, fidèle à lui-même, ne mâche pas ses mots. Voici comment il attaque sa lettre et son destinataire.
Maurice Thorez, il me serait facile d'articuler tant à l'égard du Parti communiste français qu'à l'égard du communisme international tel qu'il est patronné par l'Union soviétique, une longue liste de griefs ou de désaccords. La moisson a été particulièrement riche ces derniers temps, et les révélations de Khrouchtchev sur Staline sont telles qu'elles ont plongé, ou du moins je l'espère, tous ceux qui ont, à quelque degré que ce soit, participé à l'action communiste dans un abîme de stupeur, de douleur et de honte.
Quelques paragraphes plus loin, Césaire conclut sa lettre par ces mots qui tombent comme un coup près. Dans ces conditions, je vous prie de recevoir ma démission de membre du Parti communiste français. Point. Alors c'est déjà quelque chose, hein, de quitter le parti volontairement. En général, à cette époque, on s'en fait exclure sans ménagement, et après avoir été jeté à la vindicte prolétarienne. Mais Césaire, lui, aime se qualifier de péléen, en référence à la montagne Pelée, le volcan de sa Martinique natale, ce qui veut dire, pour lui, volcanique, imprévisible, explosif. Césaire ne fait jamais les choses à moitié. C'est donc dans le fracas des mots qu'il annonce son départ. Ce n'est pas une lettre, c'est plus que ça, c'est un pamphlet, une diatribe, un réquisitoire, d'autant plus implacable qu'il est trempé de cette plume aussi sensible que brutale qui a fait la renommée du Martiniquais. Mais avant d'aller plus loin, avant de lister ses griefs que Césaire annonce dans sa première phrase, avant également de voir les conséquences politiques d'une telle démarche, il faut revenir sur son appartenance au Parti communiste français. Ou plutôt, sur son cheminement avec le mouvement marxiste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. car marxiste, il ne l'est pas forcément. Césaire, ou du moins, il ne l'est pas entièrement. Quand, venu de son île à l'âge de 17 ans, en 1931, il découvre le Paris dans l'ébullition de l'entre-deux-guerres. D'abord au sein du prestigieux lycée Louis le Grand, là où il rencontre Senghor, puis à la Sorbonne. Il est de gauche, ça oui, et il est anticolonialiste, c'est incontestable. Il a en horreur la justice et le paternalisme, une déclinaison très française du racisme. Mais marxiste, c'est autre chose. Et d'ailleurs, au début de sa vie intellectuelle, quand il commence à fréquenter tout ce que Paris compte d'étudiants africains, et surtout quand il entreprend d'écrire, ce n'est pas vraiment sa priorité. Écoutons ce qu'en dit Cora Véron, l'une de ses nombreuses et nombreux biographes, sur France Culture en 2022. Elle évoque l'un des premiers écrits de Césaire dans la revue L'étudiant noir, en 1935.
Il écrit un article, Conscience noire et révolution, le titre n'est pas exactement celui-ci, peu importe, où il nomme la négritude, mais pour lui, à ce moment-là, il s'agit de faire un choix entre deux priorités, la priorité marxiste et la priorité psychique ou culturelle. Et il dit que pour lui, contre ses amis proches qui sont marxistes, pour lui, il faut d'abord développer la négritude, donc faire ce travail en profondeur psychique et culturelle qui permette ensuite de faire une révolution. Mais c'est la priorité, c'est la négritude.
Certes, puis aussi la lutte des classes en second. D'ailleurs, quand il entre à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, en 1935, Césaire adhère à la cellule des jeunesses communistes. Mais c'est plus un sympathisant qu'autre chose, il n'est pas très actif. C'est qu'il a quelques griefs contre eux, déjà, les communistes. Césaire reproche aux marxistes de privilégier la dimension sociale et de négliger les fondements culturels. Or, pour les Noirs, la priorité, et il en est très vite persuadé, et de se désaliéner après plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation et de s'affirmer en tant qu'être humain à part entière. Il s'agit de remonter aux sources, se situer, se comprendre soi-même, comme dit Césaire. Ici, il donne sa propre définition de la négritude. Nous sommes en 1980 sur Télé-Martinique.
La négritude, pour moi, c'est ramener à des choses extrêmement simples auxquelles je suis resté absolument fidèle. C'est l'affirmation d'abord d'une identité. Si on me demande qui je suis, je réponds que je suis un homme, bien sûr, mais un homme historiquement, géographiquement, ethniquement situé. Bon. Et puis ensuite, deuxièmement, c'est l'affirmation d'une fidélité. Ça signifie que je me suis toujours insurgé contre toute politique d'aliénation. Je suis et je veux persévérer dans l'être. Et puis en même temps, c'est l'affirmation d'une solidarité. Bien sûr, il y a une solidarité humaine, largement humaine, hein, mais bien entendu, il y a aussi une solidarité qui me paraît immédiate, et c'est celle qui unit, qui doit unir tous les opprimés, et singulièrement tous les hommes de couleur de par le monde entier.
Cette quête, Césaire l'exprime dans ce qui reste aujourd'hui son poème le plus célèbre. Ébauché pendant l'été 1935 sur les bords de l'Adriatique, en Croatie, maintes fois revisité par la suite, cahier d'un retour au pays natal est publié 4 ans plus tard, en août 1939, dans la revue Volonté. La guerre approche, Aimé Césaire retrouve son île après un exil de 8 ans en tant qu'enseignant et avec Suzanne, une Martiniquaise qu'il a épousée en métropole. Son poème au verbe furieux passe d'abord inaperçu, mais la postérité le rattrapera très vite. Il y fait part de son dégoût de cette Martinique, qu'il finira pourtant par chérir. Martinique placée sous le joug de l'homme blanc. Mais il évoque aussi ce lourd passé du peuple noir qu'il endosse en totalité. « Ce qui est à moi, écrit-il, c'est un homme seul emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint, Toussaint l'ouverture, c'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. La mort, elle s'empare du monde durant 6 ans. Dans une île soumise au régime de Vichy, Césaire résiste avec ses armes, c'est-à-dire avec les mots. Ici, on ne parle pas de résistance, mais de dissidence. » En 1941, il fonde une revue, Tropique, dans laquelle lui, Suzanne et leurs amis ne cessent de pourfendre l'oppression du nouvel ordre, souvent de manière détournée. Mais c'est bien là la force de la poésie. Malgré tout, la revue finit par être interdite en mai 43. Deux mois plus tard, l'amiral Georges Robert, le haut commissaire aux Antilles et en Guyane, qui a pris le parti de Vichy, est renversé. Césaire et ses camarades évitent la casse-prison. Le poète visite alors Haïti, l'île de Toussaint Louverture, figure de proue de l'émancipation des Noirs. Il rencontre André Breton également, de passage à la Martinique, en attendant de pouvoir rejoindre les États-Unis. Et le célèbre surréaliste devient son ami. Puis la paix revient, et avec elle de nouveaux espoirs, bien sûr. Il faut tout reconstruire, en métropole comme en Martinique. Ceux qui ont collaboré sont hors course. Il faut donc trouver de nouvelles têtes. Mais un poète pour faire de la politique, Césaire s'interroge. Il faut barrer la route aux vieux politiciens, dit-il, et sauver les jeunes de ce pays. Ses amis, ceux de la revue Tropique, ceux du lycée Schœlcher, où il enseigne aussi, finissent par le convaincre. Écoutons-le raconter son entrée en politique.
Alors oui, vous savez que c'était une époque absolument extraordinaire où on croyait, après la guerre, que tout était possible, qu'on allait refaire le monde, et que personne n'avait le droit de rester sous sa tente. Et à ce moment-là, des amis, des jeunes sont venus me voir, me dit voilà, il faut absolument finir avec cette vieille politique, tant pis, il faut se lancer. Nous avons des élections municipales, on te demande de venir avec nous, de venir sur notre liste. Alors, j'ai dit, bon, ça me paraît curieux. Non, il n'y a pas de doute, il faut absolument venir. Nous ne passerons pas. Mais enfin, il faut venir. Et je dois dire que j'y étais surtout parce que je pensais qu'on n'allait pas passer. C'était un petit peu une manifestation de solidarité. Alors, ils m'ont mis en tête de liste. Et puis, à circuit général, nous avons eu 90% des voix. Et voilà comment je suis devenu un homme politique.
Le 27 mai 1945, sans le vouloir donc, enfin, c'est du moins ce qu'il vient d'affirmer, Césaire est élu maire de Fort-de-France. Il n'a que 32 ans. Et l'auteur du recueil intitulé « Les armes miraculeuses » est désormais adossé au pouvoir. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est la première fois qu'un descendant d'esclaves noirs est élu à la tête de la plus grande ville de la Martinique. Sur sa liste, on vient d'horizons divers, mais c'est sous la bannière du Parti communiste qu'on se regroupe. À cette époque, quand on est de gauche et quand on est anticolonialiste, c'est la voie la plus logique, en Martinique comme ailleurs. En juillet, il adhère donc au parti. À vrai dire, Césaire n'est pas fondamentalement communiste, pas plus qu'il n'est anticommuniste. Il se qualifie lui-même de petit bourgeois, mais il n'a pas vraiment l'esprit de parti. Ça ne l'empêche pas, 5 mois plus tard, toujours sous les couleurs du PC, d'être élu député haut la main avec plus de 70% des voix. Les voici donc de retour à Paris, lui, Suzanne et leurs 4 enfants. Ils en auront bientôt 2 autres. Le PC prend en charge leur installation, parce qu'il faut leur trouver un logement, un travail pour Suzanne aussi, elle qui enseignait en Martinique. Le temps est donc venu pour Césaire de régulariser sa situation vis-à-vis du parti. Le 7 décembre 1945, il finalise son adhésion. Mais il doit remplir une fiche de renseignement pour le moins intrusive, comme le confirme un autre de ses biographes, Romuald Fonkoua, qui revient en 2017 sur cet épisode, dans le film de Guy Delaurier, intitulé « Césaire contre Aragon ».
Cette fiche est composée de 3 parties. Ce qu'il a fait avant 1939, quelle est sa position sur le pacte germano-soviétique de 1939 et quelle est son activité après 1945. Avant 1939, il déclare qu'il est sans activité, c'est-à-dire qu'au fond, il n'a jamais donc été aux jeunesses du Parti communiste, comme la plupart de ses camarades de l'école normale supérieure. Quand on lui pose la question 1939 et le pacte germano-soviétique, il dit qu'il n'a pas d'opinion. Cela suppose effectivement qu'il ne sait pas très bien comment répondre à cette question. Quand on l'interroge sur après 1945, il déclare simplement qu'il est un membre en activité, ce qui est absolument juste puisqu'il est député du Parti communiste. Donc sur la période avant 1939, on ne sait pas s'il est des jeunesses communistes. Sur la période de 1939 à 1945, on ne sait pas quelle est son opinion, qui est l'opinion du Parti communiste. En tant que député, on ne peut pas considérer qu'il est un membre totalement acquis aux idées qui sont celles du Parti communiste.
N'empêche que c'est fait. Alors peut-être à reculons, mais tout de même, Césaire, désormais, est un communiste. Du moins, il tente de le devenir. Disons qu'il en apprend la grammaire. Il lit Marx et Lénine, il apprend à parler communiste. Oh, il y a bien quelques réticences, mais il les garde pour lui. À l'Assemblée, il fait feu tout bois avec ses discours enflammés. En février 46, il défend la départementalisation de ce qu'on appelle les 4 vieilles colonies, autrement dit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. présentée comme une loi d'assimilation. Elle est adoptée un mois plus tard. L'assimilation. C'est pourtant tout ce que je rejette, Césaire le poète. Mais il y a un monde entre l'art et la politique. On peut être entier et intransigeant dans l'art. En politique, la parole est évidemment moins libre. Élément de langage, comme on dit. Bref, un carcan. Et cette loi, c'est la promesse de ce que le peuple de Martinique réclame, à savoir l'égalité, tout simplement. C'est aussi le mandat que lui ont donné les communistes martiniquais. Et puis, quelque part, Césaire y croit. Peut-être cela permettra-t-il de sortir l'île de sa misère, se dit-il. En tout cas, c'est un bon communiste. Ou du moins, il joue à l'être. Malgré sa proximité avec André Breton, il devient un poète officiel du PC, lequel ne se prive pas de le mettre en avant. Dans l'Humanité, le journal du parti, Roger Garoudi en parle comme du poète de la colère. En août 48, il est invité à participer au premier congrès mondial des intellectuels pour la paix, autrement dit des intellectuels communistes. Ça se passe à Wrocław, en Pologne. Pour la première fois, Césaire met les pieds dans un pays de l'Est. Et il y a du beau monde avec lui, Picasso, Éluard, Neruda. Écoutez-le au micro des RTF pour fendre le colonialisme à l'issue de ce congrès.
Nous insisterons beaucoup pour que dans la résolution finale, il y ait et quelques lignes et qui flétrissent les guerres coloniales. Il sera en effet paradoxal que l'on termine ce congrès et sans que l'on stigmatise les guerres qui existent, guerre au Vietnam, guerre et répression à Madagascar, guerre en Malaisie. Et nous considérons que un des rôles principaux des intellectuels à l'heure actuelle est de réclamer cette extension du droit, cette généralisation du droit, et qui nous paraît inséparable de la vraie civilisation.
En réalité, Césaire revient quelque peu décontenancé de ce congrès. C'est qu'il a été placé au cœur du réacteur communiste. Mais que n'a-t-il entendu ? Ce représentant soviétique, notamment, parlant du jazz comme d'une musique de dégénéré, mais enfin, peste Césaire en lui-même, c'est de notre musique qu'il parle. Ça n'empêche pas de devenir un bon soldat du parti. Un temps, il se moule dans le costume du parfait apparatchik. Certes, il l'a rappelé en Pologne. Il ne perd pas de vue son combat premier, l'émancipation des peuples noirs. Fin 47 d'ailleurs, il participe à la création d'une nouvelle revue, Présence africaine, lancée par le Sénégalais Alioune Diop, un ancien sénateur proche des socialistes de la SFIO. Cette revue s'inscrit dans le mouvement de la négritude. Mais Césaire ne participe à l'aventure que d'assez loin. À ses débuts, d'ailleurs, il ne publie aucun article. En revanche, il se fait remarquer en signant quelques poèmes à la gloire du parti, comme celui-ci, en avril 1950, publié dans l'Humanité. Son titre, Maurice Thorez parle, et on ne peut être plus explicite. En voici un extrait.
Voix de Maurice Thorez, le contrepoison au poison du mensonge, la raison claire contre les possédés. La raison tonnerre, la fraternité telle l'oiseau tonnerre dans le ciel capitaliste tout terne, de la barbarie, des seigneurs de la terre. Voix du peuple, forge des temps, les canons qui se taisent et la main ouvrière hardie à délasser les pieuvres.
Le communisme est à l'ordre du jour, clame-t-il à la fin de ce curieux poème. C'est le temps de la compromission artistique. Comme les autres poètes du parti, Césaire est mobilisé pour faire l'éloge de celui que pourtant la presse bourgeoise surnomme le Staline français. 3 ans plus tard, il se rend aux obsèques de Staline le vrai, à Moscou. Dans la foulée, un journal russe publie un autre de ses écrits à la gloire du petit père des peuples. En tout, 7 de ses poèmes sont publiés dans la presse communiste. Mais aucun ne sera intégré dans ses recueils, parce que Césaire les reniera tous.
We'll be right back.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Aimé Césaire et le Parti communiste, un divorce dans le fracas des mots.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
10 ans durant, Césaire joue au bon soldat de la révolution prolétarienne. Il prend la parole au congrès du Parti communiste, assume son rôle de poète officiel, vote les lois défendues par le PC à l'Assemblée. En mars 1956, il est de ceux des députés, avec tous les autres communistes, et dans une quasi-unanimité, qui accorde des pouvoirs spéciaux au gouvernement de Guy Mollet, afin de mater l'insurrection en Algérie. Reniement suprême pour cet homme qui ne cesse de pourfendre le colonialisme. Reniement ultime. Ce vote le dérange beaucoup. L'heure est donc venue de rompre avec le parti et de retrouver sa liberté. Donc il n'y a pas de quoi être surpris quand il envoie sa lettre de démission à Thorez le 24 octobre. Certes, 3 semaines plus tôt, les deux hommes se sont rencontrés et Césaire ne lui a rien dit. Mais au fil des mois, il s'est quelque peu éloigné de la ligne officielle. Il a dédié certains de ses textes à André Breton. Il s'est rapproché de ses amis de présence africaine. Et tout cela, les communistes ne le voient pas d'un très bon œil. C'est chez Présence africaine, d'ailleurs, que Césaire publie la version définitive d'un texte d'une violence, mais aussi d'une justesse inouïe. Il s'agit de son fameux discours sur le colonialisme. Un discours bien au-delà. Un réquisitoire, là encore. Il y a notamment ces premières phrases qui vous prennent à la gorge.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférer à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper.
Ce discours, c'est un festival de ce qu'on appellerait aujourd'hui des punchlines. Il y en a à chaque page, ou presque. Avec ce texte, Césaire s'empare de toute la violence de la colonisation. Il la digère, la recycle par les mots, puis il la jette à la figure du monde européen. Retour à l'envoyeur. Il y a notamment ce passage, qui encore aujourd'hui fait grincer bien des dents.
Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore. Qu'Hitler l'habite. Qu'Hitler est son démon. Que s'il le vitupère, c'est par manque de logique. Et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique.
Nous sommes en 1955, et de toute évidence, le poète en colère est de retour. Cette même année, un autre de ses textes suscite le trouble, c'est la lettre à René Dépestre. Alors pour bien comprendre l'ampleur de la polémique, il faut planter le décor, comme souvent. Dépestre est un poète haïtien. En juin 55, il écrit une lettre d'allégeance à Louis Aragon. Oui, d'allégeance. Car dans ce texte, il se plie à toutes les normes que le célèbre poète parisien entend imposer en matière d'écriture. Pour Aragon, l'art ne peut être qu'au service de la cause, et il doit répondre à des règles bien précises. Et Aragon n'est pas n'importe qui. Dans le monde des lettres, comme au sein du PC, il fait la pluie et le beau temps, notamment avec sa revue Les Lettres Françaises. D'une certaine manière, c'est lui qui décrète qui est digne, parmi les artistes, d'être appelé camarade, et qui ne l'est pas. Et gare à celui qui ne lui plaît pas. C'est le cas pour Césaire, qui est royalement ignoré par sa revue. Césaire qui dit d'Aragon que c'est un grand bourgeois. Ambiance. Alors, quand le Martiniquais tombe sur le texte de Dépestre, ce jeune poète qu'il connaît bien, son sang ne fait qu'un tour. Assimilationnisme, dénonce-t-il, l'arminisme. d'épestre à courber l'échine devant le maître blanc. C'en est trop. Césaire prend sa plume la plus acérée. La poésie, clame-t-il, ne peut pas être un acte d'allégeance. Laisse là la gueuserie solennelle d'un air mendier, écrit-il. Marrons-nous les dépestres, marrons-nous les comme jadis nous marronnions nos maîtres à fouet. Écoutez ce qu'on dit dépestre lui-même dans le film de Jeanne Palsy, Aimé Césaire, une voix pour l'histoire, diffusé en 1994.
Donc j'ai eu ce poème sous les yeux et j'étais naturellement, ma première réaction, absolument consterné. Et puis, dans le fond, moi, j'étais séduit par ce poème. J'étais séduit par son rythme où je retrouvais le vrai Césaire, même si j'en faisais les frais. Et finalement, il y a un vers qui n'apparaît pas, qu'on a supprimé dans cette édition, mais qui m'avait frappé, c'était que le poème tourne mal ou bien sur l'huile de ses gonds, foutant de peste, foutant, laisse dire à Racon. Mais le débat, en quelque sorte, aura été fécond, parce qu'il a permis un rapprochement inespéré autour de la revue Présence africaine. Il y a un véritable débat autour de la poésie nationale et finalement autour du problème de la négritude.
De fait, cet épisode laisse des traces. La polémique secoue le monde des lettres, chacun y va de son commentaire. Elle permet en tout cas à Césaire de se rapprocher un peu plus de Présence africaine, qui prend sa défense et, ce faisant, de s'éloigner du Parti communiste. Car à travers cette lettre, c'est Aragon qu'il vise, Aragon le tout-puissant. Et quelque part, c'est au parti, à ses dogmes indépassables et à son indécrottable paternalisme qu'il s'adresse. Bref, la rupture est proche. Elle interviendra l'année suivante, en 56. En février, 3 ans après la mort de Staline, son successeur Nikita Khrouchtchev se décide à reconnaître tous les crimes à l'occasion du 20e congrès du parti à Moscou, les crimes de Staline. C'est le fameux rapport Khrouchtchev. Voici ce qu'en dit Monsieur X en 2003 sur France Inter.
Dernier soir, vers minuit, on prononce la clôture officielle du congrès. Et c'est la surprise. Contrairement aux usages, le secrétaire général Nikita Khrouchtchev retient les délégués, à l'exception des étrangers et des journalistes qui sont fermement invités à quitter la salle.
Et Khrouchtchev ne veut parler qu'aux soviétiques.
C'est ça. On va laver son linge sale en famille. Et le dirigeant soviétique sort de sa serviette un épais document qu'il lira 4 heures durant. Et malgré l'heure tardive, je vous assure qu'aucun délégué n'a envie de dormir. Car ce qu'ils entendent cette nuit-là est proprement ahurissant. Staline, l'homme qui a construit l'URSS, le héros de la Grande Guerre patriotique, comme on disait là-bas, est accusé des pires crimes.
Une lumière crue est ainsi jetée sur la réalité du régime stalinien. Et bientôt, le monde entier est mis au courant. Seulement voilà, quand le monde divulgue ce rapport en avril, quelques jours après le New York Times, Thorez nie tout en bloc des crimes de Staline. Et ça s'en est trop pour Césaire. Le 23 octobre, au moment même où une autre insurrection débute en Hongrie, on connaît la fin, elle sera matée après l'entrée des chars soviétiques dans Budapest, il quitte le groupe communiste à l'Assemblée. Et le 24, il envoie enfin sa lettre de démission. À Thorez donc, mais aussi à la rédaction de France Observateur, ce journal qui se fait fort de dénoncer les crimes de la colonisation. Il n'y a pas de hasard. Le réquisitoire de Césaire est accablant. Les griefs, eh bien nous y voici. Ils sont nombreux. Ils pointent bien sûr les crimes de Staline qui ont plongé, c'est ce qu'il espère, c'est ce qu'il écrit en tout cas, tous les camarades dans un abîme de stupeur, de douleur et de honte. Il dénonce le silence du PC, sa persévérance dans le mensonge. Ce sont ses mots. Quoi, poursuit-il, tous les partis communistes bougent, Italie, Pologne, Hongrie, Chine et le parti français, au milieu du tourbillon général, se contemple lui-même et se dit satisfait. Mais il n'y a pas que cela. Non, il y a plus important aux yeux de Césaire. Au fil des ans, il a acquis la conviction que le Parti communiste n'est pas l'allié des hommes de couleur. Ce sont ses mots, toujours. Qu'il ne les aidera pas à s'émanciper. Et évidemment, il fait allusion au vote sur l'Algérie. Mais sa critique est plus profonde. Il a fini par comprendre que dans ce parti, aussi, il y a du racisme. Ou du moins, une forme de racisme. Écoutons un extrait.
Inventons le mot. C'est du fraternalisme. Car il s'agit bel et bien d'un frère. D'un grand frère. Qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la main. D'une main, hélas, parfois rude, pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la raison et le progrès. Or, c'est très exactement ce dont nous ne voulons pas. Ce dont nous ne voulons plus. L'heure de nous-mêmes a sonné.
Césaire dénonce l'assimilationnisme invétéré des communistes français, leur chauvinisme inconscient. Je cite toujours. La charge est violente, d'autant qu'elle est publiée dans la presse dès le lendemain et bientôt dans une revue américaine. Eh bien, la réplique se veut tout aussi virulente. Thorez déplore ce qu'il appelle la dissimulation de Césaire, qui ne lui a rien dit 3 semaines plus tôt. Et surtout, l'agression brutale et politique qui desservent, selon lui, la classe ouvrière et tous les peuples opprimés. Rosanne Girard, le député communiste de la Guadeloupe, le traite de flanchard. Quant à Roger Garaudy, le qualifie de fossoyeur. Mais ça ne suffit pas. Césaire doit payer maintenant sa trahison. Les aides du parti à sa famille sont coupées, il fallait s'y attendre. Et à Fort-de-France, la section martiniquaise exige sa démission de tous ses mandats, ce que Césaire refuse. L'île est alors le théâtre d'une guerre des tracts entre les deux camps. Le 12 novembre, Césaire est finalement exclu. Pour les communistes antillais, c'est un traître et il le restera très longtemps. Écoutez ce qu'en pense l'un d'eux, André Constant, interrogé sur RFO bien des années plus tard, en 2006.
La lettre de Césaire a fait un mal immense aux travailleurs martiniquais. Je crois sincèrement, malgré toute la sympathie que j'ai pour mon ancien professeur, sympathie et affection, je crois qu'il a fait reculer les travailleurs martiniquais et que nous ne serions pas à ce stade actuel de la division des forces de gauche de la Martinique.
La lettre à Thorez aurait pu s'apparenter à un suicide politique. Au contraire, non seulement elle fait œuvre de soulagement pour Césaire, qui se dit délivré, mais de surcroît, elle ne marque pas l'arrêt de sa carrière politique. Début 57, il est réélu maire de Fort-de-France après la démission de l'ensemble du conseil municipal. Il le restera jusqu'en 2001, presque un record. En 58, il crée son propre mouvement, le Parti progressiste martinique, qui se définit comme nationaliste, démocratique, anticolonialiste et inspiré de l'idéal socialiste. Dans la foulée, comme le rapportent les RTF au soir du scrutin, il gagne haut la main les élections législatives avec 80% des voix.
Fort-de-France, RTF. À l'heure où nous émettons, les bureaux de vote ont commencé les opérations de dépouillement depuis 2 heures seulement. Deux principes généraux se dégagent déjà de ces élections dans le département de la Martinique. Tout d'abord, la disparition à peu près complète du Parti communiste au profit du Parti progressiste martiniquais, dirigé par M. Aimé Césaire, député et maire de Fort-de-France, lui-même ancien leader du Parti communiste. Enfin, le nombre élevé des abstentions qui sera probablement de l'ordre de 40 à 50%.
Césaire siégera à l'Assemblée jusqu'en 1993. Et jusqu'au bout, il n'aura de cesse de pourfendre le colonialisme et de revendiquer plus d'autonomie pour son île. 15 ans plus tard, le 17 avril 2008, il s'éteint dans sa ville de Fort-de-France. Des obsèques nationales lui sont rendues. Les hommages à l'auteur du discours sur le colonialisme, devenu un classique, pleuvent de par le monde. Même l'Humanité, ce journal qu'il a encensé avant de dénigrer, lui réserve sous la plume d'Olivier Larisa un éloge qui dit « Aimé Césaire ne meurt jamais. Il est la référence cardinale. Il était aussi vieux qu'un dieu, solide et inamovible comme un monument. » Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, effectivement, Aimé Césaire et le Parti communiste. Un divorce dans le fracas des mots. Notre invité, l'historien David Alliot. Bonjour.
Bonjour à vous.
Spécialiste d'Aimé Césaire, vous lui avez consacré une biographie en 2008 sous le titre Aimé Césaire, le nègre universel. Puis en 2013, vous avez écrit un essai sur son engagement au sein du Parti communiste français, notre sujet, hein, intitulé Le communisme est à l'ordre du jour. Alors j'ajoute qu'en 2028, c'est après demain, on célébrera sa mémoire à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Et cette année-là, 2028 donc, vous publierez une biographie intitulée Aimé Césaire, poète de la révolte aux éditions L'Archipel. Qu'aurez-vous à apporter de plus que votre livre Aimé Césaire, le nègre universel, et même le deuxième ?
Eh bien, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites dans des dossiers, dans les archives. Beaucoup de gens m'ont écrit aussi, qui ont été élèves d'Aimé Césaire ou qui ont côtoyé Aimé Césaire. Et donc, j'ai pas mal de témoignages en plus, documents inédits. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur Aimé Césaire.
Mais qui ont éclairé votre pensée ou ce sont des témoignages qui valident tout ce qu'on savait déjà?
Oui, globalement, on va dire dans les grandes lignes, la vie d'Aimé Césaire est connue. Mmh. Mais effectivement, on en connaît un peu plus sur le personnage, sur quelques évolutions. C'est toujours intéressant. Je me permets d'être au micro pour aussi saluer René de Pestre, qui est toujours parmi nous et qui a 99 ans et s'il nous écoute, donc un amical souvenir.
Bien, alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. Dans votre ouvrage, vous expliquez que Césaire a parfois lui-même réécrit sa propre légende. Son engagement politique, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, notamment son élection comme maire de Fort-de-France. Il dit « Oh, j'ai été élu par hasard et je vous ai vu tiquer. »
C'est l'immense avantage de vivre très vieux. Aimé Césaire est mort à 94 ans. Tous les témoins de l'époque étaient morts, ou peu s'en faut. Et quand vous avez plein d'admirateurs qui viennent vous voir et qui n'osent surtout pas vous contredire, on peut réécrire parfaitement son histoire. Donc, moi, mon principal défaut, c'est que je me base sur les archives. Et entre la version des archives et la version d'Aimé Césaire, il y a quand même quelques petites différences. Et le côté « j'ai été élu par hasard », c'est presque à l'insu de son plein gré qu'il est devenu maire de Fort-de-France, hein, si on le croit. En fait, non, c'est un cheminement idéologique. Alors, qu'il y croyait pas, j'ai beaucoup de doutes parce que, à l'époque, le Parti communiste, après-guerre, enfin, c'était le parti en vogue. Et d'ailleurs, on parle de l'élection d'Aimé Césaire à Fort-de-France, mais toutes les grandes villes de France, quasiment, vont tomber dans l'escarcelle communiste.
Au sortir de la guerre, oui, c'est Staline le héros, oui, voilà, la résistance communiste, bien sûr.
C'est un raz-de-marée. Le Parti communiste représente à l'époque 35% des voix.
Donc, c'est énorme.
C'est énorme à l'époque. Et ne pas être communiste, c'est presque anormal pour un intellectuel comme Aimé Césaire. Donc, je pense qu'il a compris que le vent du changement passait par le Parti communiste, qu'il fallait il fallait y adhérer, il fallait s'engager, et faut dire ce qui est, le Parti communiste était quand même le parti le mieux organisé. Le parti a toujours été, d'ailleurs, avec des cellules, des organisations départementales. Donc, c'était le parti le mieux organisé, celui qui avait le vent en poupe idéologiquement et structurellement et matériellement. C'était évidemment logique qu'Aimé Césaire, qui était sympathisant auparavant, intègre... Et puis...
Il est pas seul à être tombé dans le piège parmi les intellectuels français, il y en a beaucoup.
Il y en a plein d'autres. Mais il faut dire, Aimé Césaire avait cette aura, hein. C'était un normalien, un intellectuel, et le parti cherchait justement des je vais pas dire le mot vitrine, mais avec beaucoup de guillemets, il cherchait des vitrines idéologiques intellectuelles pour montrer sa puissance, sa force dans les milieux qui comptent, et la volonté du parti c'était, on va mettre les intellectuels au service du peuple. Et Aimé Césaire est parfaitement en accord avec ça. Il a fait des études brillantes, c'est quelqu'un d'absolument époustouflant en termes de langue et de création, au service du peuple.
Une proximité avec Léopold Sédar Senghor?
Bien sûr. Ah, c'est les études...
Négritude, francophonie, c'est...
Tout, puis le...
Décolonisation, émancipation, ça fait beaucoup.
Décolonisation, alors il y a une différence quand même, Senghor est socialiste. Voilà, alors que Césaire est communiste. Ça peut paraître anecdotique, mais Senghor est socialiste et il y a une forte spiritualité africaine en lui. Césaire est communiste et laïque.
Ouais.
Petite différence.
Ah, c'est une différence.
Mais ce qui n'empêche pas une amitié très très forte et des vues communes sur les combats et autres, oui, bien sûr.
Alors, comment Césaire assume-t-il son passage par le PC?
Ben, il l'assume pas.
Voilà. Alors, j'aurais dû dire, comment ne l'assume-t-il pas?
Voilà. En fait, au début, il est sympathisant. Quand il est à l'école normale sup, il est sympathisant communiste, j'ai envie de dire. Être communiste à normale sup, c'était presque normal. Il y avait même une cellule, des étudiants communistes à normale sup. Il y a des témoignages là-dessus. Aimé Césaire était sympathisant, voilà. Après, pendant la guerre, effectivement, où la Martinique va vivre sous le régime Autant-Robé, excusez-moi pour mon accent créole très mauvais. Donc c'est une sorte de régime de Vichy local. Donc Césaire fait partie de la dissidence, c'est-à-dire ceux qui rentrent en dissidence par rapport à ce régime, avec effectivement les publications. Mais là, on est plutôt sur un Césaire surréaliste. Il n'est pas encore communiste. Il est communiste de cœur, certainement, mais plutôt surréaliste dans la poésie. Et c'est vraiment 45 où il franchit le pas. où là, il est tête de liste de la mairie de Fort-de-France, député de Fort-de-France. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut régulariser la situation parce qu'au parti, plus il y a de députés, plus il y a de sources de financement. Puis à l'Assemblée, il faut montrer sa puissance. Donc, et Césaire, d'ailleurs, a tout intérêt à intégrer le PCF parce que lui, il veut porter la fameuse loi sur la départementalisation qui, rappelons-le, fait sortir la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane du colonialisme, hein, pur et dur, pour devenir des départements d'outre-mer, c'est-à-dire pour la population, dans l'esprit de Césaire, dans l'esprit de l'époque, un mieux matériel évident.
Bon, on voit bien que Césaire occupe une place à part hein, dans le cœur des Martiniquais avant-hier, hier et aujourd'hui, et dans sa mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'il tient cette place-là?
Bah, c'est ce que je dis souvent, la Martinique, c'est la grande petite île. Donc, faut pas oublier qu'au-delà de Césaire, il y a France Fanon, il y a quand même beaucoup d'intellectuels, de très grands penseurs, d'intellectuels, de très grands écrivains qui viennent de Martinique, hein, dont Aimé Césaire, bien sûr. Et c'est la grande figure. Puis il a été quand même maire de Fort-de-France pendant 50 ans. Et Aimé Césaire, électoralement, a quand même une particularité. Il n'a jamais connu la défaite. Ce qui, pour un homme politique, en général, il y a toujours une défaite, un passage à vide, une traversée du désert. Aimé Césaire, jamais. C'est lui qui a renoncé à ses mandats. Il n'a jamais connu les dures soirées électorales. Mais faut dire, Aimé Césaire, c'était aussi un maire bâtisseur. Faut pas oublier que Fort-de-France, en 45, c'est le Moyen-Âge. Hein. Et vous avez le centre de Fort-de-France qui est à peu près présentable. Le reste, c'est des bidonvilles, hein. C'est la zone. C'est abominable. Il y a même pas d'eau courante, l'électricité, c'est pas ça. Enfin, c'est vraiment la misère. Et Aimé Césaire va devenir un bâtisseur. Il va remettre Fort-de-France, va moderniser Fort-de-France, construire des logements. Donc, c'est un maire bâtisseur qui a joué sur le quotidien des gens.
Alors, il est célèbre et admiré en Martinique, en métropole, évidemment. Que dire de son rayonnement international?
Bah, il est immense parce que son œuvre est traduite dans le monde entier. Cahier d'Arthur au pays natal est traduite en anglais. Et je vais même vous faire une petite révélation. Le deuxième pays, alors bien sûr la France, hein, je compte pas, mais
heureusement.
Voilà, mais le premier pays traduction, c'est les États-Unis, bien sûr, avec où Aimé Césaire occupe une place très importante. Et le deuxième pays, c'est le Japon.
Donc.
Aimé Césaire est extrêmement populaire au Japon. Alors, allez savoir pourquoi. Peut-être c'est l'insularité qui leur parle, parce que les Martiniquais au Japon, il n'y en a pas eu beaucoup. Et l'inverse aussi, les Japonais en Martinique non plus. Mais Aimé Césaire est extrêmement populaire au Japon. Allez savoir pourquoi.
C'est une révélation, c'est intéressant.
Mais l'œuvre d'Aimé Césaire est traduite dans le monde entier. Ses pièces de théâtre sont jouées dans le monde entier. Donc, c'est effectivement une œuvre, effectivement, connue universellement.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
David Alliot, il y a un mot qui nous frappe dans la lettre que Césaire a écrite à Thorez, c'est fraternalisme. Est-ce que ça nous renvoie au néocolonialisme, genre le pays colonisateur dit à son ancienne colonie, vous êtes libre, mais on reste un grand frère, c'est ça ou pas?
C'est la version néocolonialiste soviétique, c'est-à-dire que c'est l'URSS qui va décider pour vous votre bien, donc le bien des Polonais, des Tchèques, des Roumains, des Hongrois et bien sûr des autres partis. Parce qu'il faut pas oublier le Parti communiste que quitte Aimé Césaire, le Parti de Maurice Thorez, c'est un parti qui est dirigé depuis Moscou. Donc le parti, les positions du parti. Les décisions prises par Maurice Thorez viennent de Moscou. Donc c'est le grand frère qui décide ce qui est bon pour les Français, pour les Martiniquais. Donc autant vous dire qu'à Moscou, la Martinique, c'est une terre un peu inconnue quand même. Et c'est justement ce que va dénoncer Aimé Césaire, cette espèce de fraternalisme où ce sont des apparatchiks soviétiques qui vont décider le bonheur des Martiniquais. Et en général, comme ils n'y connaissent rien, ça se termine en catastrophe.
D'accord. Donc c'est donc quelque chose de spécifique à la position de l'URSS par rapport aux pays de l'Europe centrale.
C'est la façon de diriger l'URSS. Nous sommes tous frères, nous sommes le même peuple. Il ne faut pas oublier la dimension universelle du communisme. Le but du communisme, ce que voulait Trotsky par ailleurs.
Oui, internationalisme.
Voilà, répandre la révolution partout parce que nous sommes tous frères.
Est-ce que le rapport Khrouchtchev a joué un rôle important dans la décision d'Aimé Césaire?
Bien sûr. Le rapport Khrouchtchev, pour tous les communistes de l'époque, c'est un choc virulent.
Ah, on imagine, oui.
Voilà, certains ont pleuré même en apprenant ça. D'autres ne voulaient même pas y croire tellement c'était... Aujourd'hui, on dirait que c'est une fake news ou quelque chose de fabriqué. Mais au-delà du rapport Khrouchtchev, qui est un bouleversement pour beaucoup de communistes de l'époque, c'est surtout l'attitude du parti...
Pour l'Algérie, surtout.
Bah pour tout. Pour
ah, mais quand même, l'Algérie, le vote des communistes en faveur des droits spéciaux en Algérie,
ah, oui,
pour Aimé Césaire, c'est forcément, ça télescope son idéal.
Ah bah, ça veut dire que des jeunes Martiniquais qui font leur service militaire vont tirer contre des Algériens. Voilà, concrètement, ouais. Ça veut dire ça.
Mmh. Et, au-delà du concret, c'est dans l'idée colonialiste, mais il ne peut pas.
C'est impensable pour Aimé Césaire. Ça veut dire que les communistes valident le fait de la répression en Algérie. Donc des colonisés vont à agir contre d'autres colonisés. Pour Aimé Césaire, c'est impensable.
Bien sûr.
Donc
il y a l'Algérie, il y a Khrouchtchev, il y a autre chose, vous vouliez me dire, pour tout en fait.
Bah, en fait, c'est surtout l'immobilisme du PCF. Le PCF va alors que tout le pays est bouleversé par ça, il faut dire aussi la presse conservatrice ou réactionnaire, son le mot de l'époque, Le Monde, Le Figaro, ne va pas se priver
de
taper là où ça fait mal. Et c'est surtout Le Monde en fait qui va publier de longs passages du rapport Khrouchtchev. Et c'est surtout le PCF ne va pas bouger. En gros, le congrès de juillet 56, c'est tout, mais tout va très bien. Et en plus, c'est un congrès qui est verrouillé. La prise de parole sont verrouillées. Et en gros, c'est tout va très bien, Madame la Marquise.
Ouais.
Et ça, pour Aimé Césaire, c'est à ce moment-là, je pense qu'il a compris que le PCF n'évoluera jamais.
Les communistes lui en ont beaucoup voulu. Évidemment, combien de temps a duré la brouille? Est-ce qu'il y a eu un moment où entre les communistes et Césaire, avec les changements de génération, enfin avec Marché, j'imagine que non, mais...
Oui, non, mais en fait, il y a un rapport de force évident. La défaite des communistes est totale. Le PPM, qui aujourd'hui encore est un parti majeur en Martinique, hein, le parti d'Aimé Césaire gouverne encore en grande partie la Martinique, mais le parti communiste martiniquais va représenter 3-4% des voix. C'est une défaite totale.
Ouais.
Donc, on va dire avec le temps. Alors j'en ai rencontré quelques-uns en 2013, les vieux du PCM, qui l'avaient toujours un peu mauvaise, mais aujourd'hui, si vous voulez, mais il ne faut pas oublier quand même que la Martinique, c'est une île, c'est tout petit, et la décision de Césaire de quitter le PCF, ça a fracturé des familles entières. Hein, c'est tout petit, la Martinique. Et Fort-de-France, c'est 50% de la population de la Martinique. Donc, ça a fracturé des familles entières. Bon, aujourd'hui, le temps a passé, et Césaire, en fait, il a fait un communisme à visage humain.
Sur le modèle italien, de Berlinguer, par exemple.
Bah, Césaire, vous direz sur le modèle martiniquais.
Oui, bien sûr. Bon, on a toujours le modèle d'un modèle.
Absolument.
De toute façon. Bon. Merci, David Alliot. Alors, je vais informer mes auditeurs d'un autre livre qui vient de sortir, c'est un beau livre d'ailleurs, que vous avez coécrit avec Philippe Charlier. Ça s'appelle L'histoire au scalpel, autopsie des morts célèbres. Alors, il y a notamment une reconstitution par ordinateur des visages des
tout
rois.
À fait.
Et alors, Henri IV, il est formidable, parce qu'on l'imaginait bien comme ça. Et puis, c'est un livre dans lequel on va tous se plonger du côté d'affaires sensibles, parce qu'il y a peut-être des idées de sujets.
Et puis, Philippe Charlier, ça fera un plaisir de venir vous en parler.
Parfait. Merci, David Alliot. À bientôt, donc.
À bientôt. Toujours avec plaisir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Aimé Césaire et le Parti Communiste, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Roland Mahé.